nous en avons besoin. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de comment vivre d'une manière juste dans ce monde mauvais. Nous en avons besoin en tant que chrétiens. Hein? C'est un grand défi que Dieu il nous donne. Et nous devons le prendre avec sérieux. Hein? Pourquoi? Parce qu'on voit tellement de choses dans ce monde. Les frères, il en a parlé, à Algérie, qu'ils ont fermé cette église. Dans d'autres endroits, des chrétiens qui sont persécutés. Des gens qui parlent contre les chrétiens. Et voilà, il y a de l'injustice partout. Alors, comment vivre d'une manière juste dans ce monde mauvais? La Bible nous dit que dans les derniers temps, les moments seront mauvais. Hein? En Timothée, 2 Timothée 3, il nous dit qu'il y aura les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et la liste continue, si vous lisez ce verset. Le monde dans lequel on vit, c'est mauvais. Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour nous. J'ai vu cette vidéo en Inde, de cette sœur. Elle a été en réunion de prière, elle a été brûlée vive. Elle a été tapée, entourée par tous ces gens. Et ensuite, ils lui ont jeté du pétrole, de l'essence. Elle a brûlé. Et personne n'a été la secourir. Et tout ça, pourquoi? Elle a été à une réunion de prière. C'est un monde mauvais. Alors, comment vivre? Vivre d'une manière juste dans ce monde mauvais. Nous sommes dans le dernier temps, comme je vous ai dit, et Dieu nous appelle à vivre cette vie. Et il y a un psaume, c'est le psaume 37, qui nous montre un peu comment vivre une vie juste dans ce monde mauvais. Ce psaume, il a été écrit par David, qui a été à l'école de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il était comme nous, il est tombé dans les péchés, dans des péchés graves, tout ça, mais il a toujours eu l'Éternel comme secours. Et il a été constamment restauré. Et dans ce verset, on va regarder surtout les 11 premiers versets. On va les analyser et on ne va pas les prendre dans l'ordre, au moins moi, on va les lire dans l'ordre, mais moi je ne les prendrai pas dans l'ordre. Hein? Et dans ces 11 versets, j'ai retenu 3 catégories. La première catégorie, c'est que ce que nous devons éviter de faire dans ce monde mauvais. Deuxième, ce que nous devons faire dans ce monde mauvais et ce que Dieu promet de faire. Nous allons voir ces 3 choses, mais lisons ces 11 versets. Alors, c'est les psaumes de David, voilà ce qu'il dit. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et les méchants n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, on va voir ces trois points. Le premier point, c'est ce que nous devons éviter de faire dans ce monde mauvais. Et on trouve la première chose hein, dans le premier verset, la première partie du verset. Il dit, « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. » Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Dans l'original, le mot « s'irriter » signifie « brûler », « être enflammé ».« Brûler », »,« être enflammé ». Et comme on dit, quand la température monte, hein, il paraît que la fumée, ça sort des oreilles. La rage. Quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, alors on s'énerve. Hein. Et David, c'était exactement la même chose. Il regardait autour de lui et il voyait en Israël même des gens qui se comportaient mal. Et même à l'extérieur d'Israël, encore pire. Et pourtant, il restait calme et dit, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Hein? Et on doit bien dire que ça nous arrive très souvent de nous irriter, n'est-ce pas? Au moins, moi, oui. Ça nous irrite de voir les choses qui se passent dans ce monde. Ça nous irrite toutes ces choses-là. Et c'est facile pour nous, quand nous subissons une injustice, de s'énerver. Mais David, il nous le dit, malgré qu'il y a toutes ces choses dans ce monde mauvais, il ne faut pas s'irriter. Si on ne s'irrite pas, on évite la suite. Et la suite, quand c'est la colère qui nous domine, automatiquement, nous ne sommes pas selon la volonté de Dieu. Et David nous donne ses conseils. Ne t'irrite pas, reste calme. Le deuxième, ce que nous devons faire, la deuxième partie du verset 1, il nous le dit. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. L'envie, c'est une grande tentation. On voit des gens qui sont sans Dieu, qui ont tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Personne ne les dérange. Et des fois, là aussi, on se pose des questions. Moi, je suis chrétien, j'ai fait tout selon la volonté de Dieu, tout, entre guillemets. Hein? Et voilà, et je n'arrive pas. Et lui, il est là, il a tout. Les conseils de David, c'est n'envie pas. Pourquoi? Lorsqu'on envie, on devient jaloux. On devient jaloux. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Oui, mais à moi, Dieu, il ne m'a pas donné beaucoup. Il t'a donné ce qu'il t'a donné. Accepte-le. N'essaye pas de chercher autre chose. Asaph, c'est quelqu'un qui a écrit des psaumes. Il a écrit les psaumes 73, verset 2, et il dit, « J'ai jalousé les insensés. » En voyant la prospérité des méchants. Et pourtant, c'est Asaph. Hein? Hein? Et David, il nous dit, n'envie pas. ceux qui font le mal. Je m'en souviens lorsqu'il y a eu la grande casse à Nice, vous en souvenez, Spaggiari. Hein, il avait construit une galerie, il avait mis la moquette et tout ça. Et j'avais entendu des chrétiens, ah, c'est bien ce qu'il a fait. Et il avait fait tout ça pour voler. Voilà, n'envie pas. Si on veut vivre bien dans ce monde mauvais, nous ne devons pas nous irriter. Nous ne devons pas envier tous ces gens qui font le mal. Et les troisièmes choses, on le voit au verset 8, et nous est dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Pourquoi? Parce que ça serait mal. Ça serait mal. Parfois, il est correct de se mettre en colère. Surtout en regardant le monde d'aujourd'hui dans lequel il est en train de vivre, n'est-ce pas? Toutes ces choses, tous ces gens qui vivent contraires à la volonté de Dieu, devant tout ce mal, devant l'injustice qu'il y a dans ce monde. Et ces gens de colère, pourquoi? C'est une colère justifiée, parce qu'on voit que, de quelle façon le monde il réagit à l'amour de Dieu. Mais il y a aussi une colère injuste et mauvaise dans laquelle nous ne devons pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que cette colère injuste et mauvaise, il nous trompe. Il nous trompe cette colère. Là, vous savez, quand on est en colère, qu'est-ce qu'il arrive? La rage qu'on a au fond de nous-mêmes, il devient de la rancœur, de l'amertume. Et toutes ces choses-là, c'est du poison dans notre vie. C'est du poison dans notre vie. David, pourquoi c'est du poison? Parce qu'on cherche, à se venger. David, il a connu ces choses-là. Il connaissait ces choses-là. Des gens qui étaient ingrats. On l'a vu dans la prédication il y a 15 jours. Nabal, vous en souvenez? David, il l'avait aidé. Il l'avait protégé. Il est passé avec son armée. Et il lui a demandé, comme c'était quelqu'un qui avait les possibilités, il lui a demandé à manger pour lui et ses soldats. Et il a dit, je ne te connais pas. Après tout ce qu'il lui a fait. Heureusement qu'il y a eu Abigail, sa femme, qui l'a rangé les choses. David, il a dû, il aurait pu les tuer, David. C'est comme ça que tu me remercies. Mais David, il a apaisé sa colère. Il a apaisé sa colère et il a abandonné cette fureur. Ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un nous abandonne, lorsque quelqu'un il parle contre nous, etc., etc. On est rempli de cette rage. Mais il nous dit, laisse toutes ces choses-là. Ne te laisse pas prendre par ces choses-là. Ça, c'est ce que, deuxièmement, on va voir ce que nous devons faire. Là, c'était ce que nous ne devons pas faire. Mais qu'est-ce que c'est que nous devons faire? Première chose, au verset 3, première partie, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel. David nous le répète plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est la vérité même. Confie-toi à l'Éternel. Il dit aussi, espère en l'Éternel. Attends-toi à lui, confie-toi en lui. Et ce que David a fait, il a dû apprendre à se confier en l'Éternel quand Saül, il le pourchassait. Quand il le pourchassait, il a fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa vie, il était entre les mains de Dieu. Et nous devons faire exactement la même chose. Hein? Bien sûr, il faut faire confiance en Dieu. Même lorsque les choses vont mal et on est découragé. Qui n'a jamais été découragé? Mais c'est à ce moment-là, quand je dis, je me confie en Dieu, j'espère en Dieu. Car c'est lui qui voit toutes choses. Des fois, on a des gens qui se tournent contre nous, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et c'est là que nous devons dire, voilà, je ne m'énerve pas, je ne me mets pas en colère, je laisse passer, parce que sinon il va y avoir la rage, il va y avoir la rancœur, il va y avoir de l'amertume. Et tout ça, pour nous qui sommes des chrétiens, c'est du poison. Je laisse. Et Dieu, il est là. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses. Il sait si je suis dans la vérité. Paul, il avait dit, Paul, hein, il a dit, j'ai rien à faire de vos jugements. Si vous me jugez mal, tant pis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jugements de Dieu. Voilà pourquoi il s'est confié constamment en Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous confier en Dieu. Parce que c'est lui qui, à la fin, il fait toutes choses. Voilà pourquoi il nous a dit, pratique, confie-toi en l'Éternel. Regardez ce qu'il nous a dit dans les versets 28, 27 et 28, toujours dans le même psaume. Détourne-toi du mal, fais les biens, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Nous devons nous confier dans le Seigneur, constamment, espérer en lui. N'importe quoi, il peut nous arriver. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui qui peut apporter ce dont nous avons besoin. Il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre personne. Et notre foi en Dieu, je dis, je me confie en Dieu. Comment est-ce que s'est traduit cette confiance? Par l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous est dit dans la parole. Connaître les choses, c'est bien, mais obéir, c'est encore mieux. C'est là dans lequel nous tombons très facilement. On connaît la parole, mais on n'y obéit pas. Nous faisons confiance à ce que Dieu dit dans la Bible, mais pas tout. Aujourd'hui, les temps, ils ont changé. C'est une autre génération qui est venue. Donc, on a besoin d'autre chose. Dieu, il a parlé pour une génération passée, c'est fini tout ça. Non, c'est pas fini. Dieu, lorsqu'il parle, il parle pour toujours. Il ne change pas. Comme il a dit le frère dans sa présidence, Dieu est fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Hein? Voilà pourquoi il nous a dit, confie-toi en l'Éternel. Et pas seulement se confier dans l'Éternel, mais aussi pratiquer les biens. Pratiquer les biens. Donc oublier toutes les choses qui se sont passées. Et au lieu de vouloir faire du mal à la personne qui est contre nous, qui l'a parlé contre nous, nous devons lui faire du bien. Je prie pour toi. Vous savez, quand à quelqu'un qui, vous savez que vous ne l'aimez pas, ou cette personne a quelque chose contre vous, vous attendez tout de suite qu'il se tourne vers vous dans une façon rageuse et le dit, vous lui dites, je prie pour toi. Ah, tout de suite, il va fermer sa bouche. Il a dit, comment ? Je m'attendais de ta part des insultes et tu me dis, je prie pour toi. Pourquoi ? Parce qu'on se confie dans l'Éternel, mais on fait les biens. Confie-toi à l'Éternel. Voilà ce que nous devons faire, malgré qu'il y a toutes ces choses dans ce monde. Deuxième chose, au verset 4, on le trouve. Et il dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices, hein? Les non-croyants, ils trouvent leurs délices dans les plaisirs du monde, dans le confort, dans les plaisirs. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est dans le Seigneur que nous devons faire, mettre toutes nos délices, et pas dans les choses du monde. Pourquoi ? Si on fait les plaisirs du monde, où est-ce que ça peut nous mener tout ça ? Nulle part. Nulle part. Pourquoi ? Parce que notre vie est vide. Il n'a pas de but. Il n'a pas de sens. Et en plus, on n'a aucune joie. Néhémie l'a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est lui qui va nous conduire en toutes choses. Et la Bible nous dit de chercher et de trouver la paix dans le Seigneur, pas dans le monde. Ne nous étonnons pas que dans ce monde, il y ait des guerres, il y a des convoitises, il y a des rébellions et tout ça. Dieu, il a prophétisé tout ça, mais il nous dit, cherche-moi et je te donnerai. C'est moi qui donne la joie, c'est moi qui donne la paix. Fais de l'Éternel tes délices. La meilleure protection contre le monde, c'est quoi ? C'est d'écouter combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Comment est-ce que le Seigneur est bon ? Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour moi. Qui suis-je ? Qui vous êtes ? Nous ne sommes rien, nous sommes des pécheurs. Qui méritait le châtiment, la condamnation. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Comment ne pas faire de ce grand Dieu notre délice ? Et si nous ne le faisons pas, nous sommes des ingrats. Et si nous faisons de l'Éternel notre délice, les choses iront bien. Peut-être... Ils iront bien parce que nous avons la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être que les choses autour de nous, ils vont mal, mais nous avons la paix de Dieu en nous. Comme lorsque les disciples étaient sur la barque et Jésus, il dormait. Sûrement qu'ils étaient, s'ils avaient peur, et pourtant ils étaient des pécheurs, hein, ils étaient habitués, hein, et ils ont eu peur, et le Seigneur, il dormait. Comment peut-on dormir dans ce moment-là ? Pourquoi il dormait ? Parce qu'il avait la paix. Il avait la joie. Il savait qu'il était entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit de ne pas nous irriter contre ceux qui font le mal et qui s'enrichissent. Et de ne pas être des envieux, mais plutôt de faire de l'Éternel notre délice, de nous confier en lui. Car c'est cela que nous devons faire. Troisième chose que nous devons faire, au verset 5, on le trouve. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Dans le texte hébreu, c'est dit, roule ton chemin sur l'Éternel. Roule le chemin sur l'Éternel. Ça donne l'image d'un fardeau. Hein? On a un fardeau sur les épaules. Notre fardeau, c'est le péché. Hein? Et qu'est-ce que c'est que nous avons fait ? Nous l'avons roulé, nous l'avons mis au pied de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il, c'est lui qui a pris ces fardeaux. C'est exactement la même chose. Remets ton sort à l'Éternel. Dans n'importe quel besoin que nous avons, difficulté, tentation, Hein, les frères, il nous le dit, aucune tentation ne vous est car Dieu est fidèle. Dans toutes choses, mettons au pied du Seigneur Jésus toutes ces choses-là, car c'est ça qu'il nous demande. Dans 1 Pierre 5, 7, il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le chemin dans lequel nous sommes, la vie qu'on est en train de vivre, c'est un chemin lourd, difficile. Vivre dans ce monde, c'est difficile, mais mettons tout ça au pied de Jésus. C'est ça ce que nous devons faire. La quatrième chose, on le trouve au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Parfois, lorsque nous nous trouvons dans un conflit, nous disons des choses qui ne sont pas agréables. Voilà ce que nous devons faire, c'est se taire. Laisser cette colère ou cette fureur qu'on a au plus profond de nous-mêmes. N'est rien dit. Garde le silence. Au lieu de nous mettre en colère, gardons le silence. Restons tranquilles. Vous vous en souvenez, lorsque le peuple hébreu, il se retrouvait devant la mer rouge, les Égyptiens derrière, et devant la mer rouge, il n'y avait aucune possibilité de s'échapper. Alors Moïse, il s'est levé, il a dit, gardez le silence et regardez la délivrance de l'Éternel. Vous savez ce qu'il a fait avec les bâtons. Il a ouvert la mer. Que faire lorsque, dans des moments difficiles? Mais il faut garder le silence. Et l'Éternel, il va intervenir. Et ce qu'il est arrivé, les Égyptiens, ils ont été engloutis. Et c'est pareil, lorsqu'on est dans difficulté, le Seigneur, il va intervenir. Et les méchants, ils vont être défaits. La justice, il va prendre le dessus. Et le bien, il va remporter la victoire. C'est ça que nous devons faire. La justice, il doit toujours remporter la victoire. Troisième partie de ce message, c'était ce que Dieu promet de faire. Ce que Dieu promet de faire. La première promesse, c'est au verset 2. Il dit, « Ils seront fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon. » Il parle de méchants. Il parle de ceux qui cherchent les plaisirs dans le monde au lieu de les trouver en Dieu, en l'Éternel. Et au verset 9 encore, il est dit, « Car ceux qui font le mal seront retranchés. » Et verset 10, « Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines les lieux où il était, plus personne. » Plus personne. Dieu promet que toute cette prospérité que les méchants ils sont en possession, il passera tout ça. Toute cette méchanceté qu'il y a tout autour de nous, ça va terminer. Qui sait qui va gagner la bataille? Mais c'est Dieu. Les frères, il nous l'a dit ce matin. Dieu, Satan, il est puissant, mais Dieu, il est tout puissant. Satan, il ne peut rien faire. Il fait que ce que Dieu lui donne, la permission de faire. Et Dieu, lorsqu'il voit qu'il a été trop loin, il intervient. Il intervient. Pourquoi? Parce que lui, il est constamment là et il défend ses fidèles. Hein? Pourquoi faudrait-il envier les méchants, comme on vient de le voir? Ils vont périr comme l'herbe. Ils vont périr comme l'herbe. Vous savez, ça m'est arrivé, avant que je connais le Seigneur, de voir quelqu'un qui faisait des choses méchantes, je me disais, ah, j'aimerais bien le faire, ça aussi. Pourquoi envier ceux qui ont des possessions et tout ça? Tout ce que les gens y ont, ça va passer. Ça va passer. Dieu a fait de nous des arbres dans les psaumes 1. Vous en souvenez ce qu'il dit? Nous sommes des arbres plantés près de l'eau. Et donc, cette eau, il nous donnera la force de pouvoir contrôler et résister à toutes les choses qui se passent dans ce monde mauvais. Donc, ne regardons pas les gens qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu avec envie. Gardons notre espoir en celui qui seul connaît le futur, qu'il connaît notre avenir. Et Dieu, il n'arrête pas de... Moi, j'aime ce verset-là. Quand je lis, chaque fois que je le lis, je suis dans la joie. Dans Jérémie, l'Éternel qu'il me dit, qu'il vous dit à vous qui avez le Seigneur Jésus, j'ai de l'avenir pour toi. À l'intérieur de moi-même, je suis dans la joie. Ça m'est arrivé avant de me dire, mais qu'est-ce que je vais être dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je vais faire demain? Mais maintenant que je suis chrétien, je sais que Dieu a un avenir pour moi. Même toutes les choses qui peuvent m'arriver, j'ai de l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu, il me l'a dit. Et je crois à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Une deuxième promesse, au verset 4, la deuxième partie, il dit, « Il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais attention, Dieu ne nous promet pas de combler tous nos désirs. Ce n'est pas ça que Dieu il dit. C'est-à-dire un nouvel ordinateur, une belle voiture, une nouvelle maison et tout ça. Plus nos désirs, plusieurs de nos désirs, ils sont mauvais. Nous devons bien l'admettre. Nous devons bien la mettre. Mais Dieu, il ne va pas sûrement les donner. Parce que lui, il sait. Je vous ai déjà raconté cette histoire. C'était un homme qui rentre dans une église et il y avait la statue de la Vierge avec l'enfant. Oui. Alors, il va vers cette statue et il se met à genoux. Alors, il prie la Vierge. Il dit, Vierge Marie, j'ai besoin d'un travail. Voilà, donne-moi un travail parce que j'ai besoin d'argent. Et là, il s'accomplit un miracle. Le petit Jésus, il dit, va travailler, feignant. Et lui, il dit, tais-toi, je parle à ta mère. Voilà. Il demandait quelque chose qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Ça ne suffit pas de dire, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Si nous sommes chrétiens, nous devons avoir une foi active. Je dis, Seigneur, donne-moi un travail, mais je cherche ce travail. Je ne vais pas rester à la maison en attendant que le travail me tombe dessus. Il faut chercher le travail. Et lorsqu'on cherche, lorsque Dieu voit, il va donner. Parce que c'est lui qui contrôle tout. Il contrôle tout. C'est lui qui ouvre et qui ferme les portes. Voilà pourquoi c'est très important, toutes ces choses-là. Pour comprendre cette promesse, qu'il te donnera ce que ton cœur désire, il faut lire tous les versets. Et ce verset, il dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Oui, Dieu, il nous donne ce que notre cœur désire lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices. Si nous, nous ne faisons pas les délices de l'Éternel, il ne nous donnera pas ce que notre cœur désire. Parce que nos désirs, ils sont mauvais. Et vous savez, même dans le cœur d'un croyant, les désirs peuvent être mauvais. Pourquoi? Parce que nous sommes mauvais. Nous sommes des pécheurs. Et des fois, nous accomplissons plus notre propre volonté que celle de Dieu. Nous demandons des choses pour remplir notre propre ego. Et pas pour la gloire de Dieu. C'est ça le problème qu'il y a. Alors on peut se demander quels sont nos désirs les plus profonds dans notre vie. Hein? Moïse, il désirait voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il désirait la voir. Salomon, il a demandé la sagesse. Pourquoi? Pour lui-même, non. Mais il dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Paul, il a demandé, j'ai bien aimé, Paul, il désirait connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a pas dit, donne-moi des richesses, il a dit, non, fais-moi connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et vous savez, l'amour de Dieu, on ne peut le découvrir qu'en Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la manifestation de Dieu, c'est lui qui a fait connaître l'amour de Dieu. Comment il a fait connaître? En allant à la croix. Et vous savez, il y a les gens, lorsque vous allez témoigner, ils te disent, mais le Dieu que tu me prêches, pourquoi a-t-il permis ça? S'il est si puissant, pourquoi il a laissé que son fils il soit tué sur une croix? Pourquoi il n'est pas intervenu? Heureusement qu'il n'est pas intervenu, parce qu'à cause de ça, je suis sauvé. À cause de ça, vous êtes sauvés. À cause de ça, nous avons la vie éternelle. Il a pris sur lui cette malédiction qu'il était sur notre tête. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions des pécheurs. Et qui dit pécheur, il dit salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement mort physique, mais surtout mort spirituelle. Parce que mort physique, tout le monde y croit. Et voilà, mangeons et buvons, après nous mourrons. Là, voilà. Il n'y a pas de l'au-delà, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Mangeons et buvons. La mort spirituelle, c'est ça. Une éternité éloignée de Dieu. Mais Dieu, il nous a montré son amour. Voilà pourquoi Dieu, il faut le connaître, mais en Jésus-Christ et pas à l'Éternel. Donc, il faut faire de l'Éternel notre délice. Et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Car Dieu, c'est un Père tout-puissant et il peut nous donner toutes ces choses-là. Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Dieu, il nous le donnera. Mais il faut faire de l'Éternel notre délice, vivre en toutes choses selon sa volonté. Une autre promesse de Dieu, c'est au verset 6. Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dans ce monde mauvais, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous aurons des adversaires qui vont nous persécuter, qui vont dire du mal de nous, qui vont faire toutes les choses abominables. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a dit, ils m'ont haï et ils vous haïront aussi. Encore une fois, regardez ce qu'ils font à nos frères persécutés dans le monde. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils haïssent Dieu et ils haïssent tous ceux qui le suivent. Et le Seigneur, il dit, « Je ferai paraître ta justice. » Quelle justice? Hein? Et il nous a dit ici, notre propre justice. Non, parce que nous, de justice, nous n'en avons pas. Mais c'est la justice que Jésus-Christ nous a donnée. Donc, il est ma justice. Voilà pourquoi, lorsqu'on a cru en Jésus, nous devons nous se l'approprier. Jésus est mon sauveur. Ce n'est pas votre sauveur. Ça, c'est à vous de dire Jésus est mon sauveur. Moi, je dis Jésus est mon sauveur. Il m'a sauvé. Et tous, nous devons dire ça. Et alors, comme je l'ai accepté, il m'a donné sa justice. Il me l'a amputé. Il me l'a donné. Et donc, c'est ma justice. Ce n'est pas une justice que j'ai. Mais c'est Jésus qui m'a donné cette justice. Et Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Et cette justice, nous devons l'utiliser, chacun de nous. Parce qu'il nous a dit aussi, vous êtes la lumière. À travers nous, les gens, ils feront deux choses. Ou ils se convertiront, ou alors ils verront leur propre jugement. C'est ça, parce que c'est à la lumière qu'on voit toutes ces choses-là. Lorsqu'on regarde un chrétien, sa façon de parler, sa façon d'agir, alors là, ils se diront, oui, comment ça se fait qu'il est comme ça? Qu'est-ce que c'est qu'il a en plus que moi? Ou alors il te dira, mais ils ne sont que des bêtises. Et alors, c'est là le jugement qu'il tombera sur eux. Mais le Seigneur, il dit, c'est, il fera paraître ta justice comme la lumière. Et c'est cette lumière-là que nous devons faire paraître dans le monde. Et nous devons intervenir dans ce monde. Si nous ne le faisons pas, les gens du monde, ils resteront dans les ténèbres. C'est nous que le Seigneur a sauvés pour que nous puissions aller et apporter cette bonne nouvelle et faire sortir les gens des ténèbres dans lesquelles ils sont. Paris, on appelle ça la ville des lumières, n'est-ce pas? Et Paris, il est complètement dans les ténèbres. Complètement. C'est à nous d'y apporter la lumière. Comment on le fait? En témoignant, en évangélisant. Hein? Voilà pourquoi nous ne devons même pas nous inquiéter de notre fin de vie. Vous savez, notre vie, c'est comme un film. Il y a le film, il se déroule. Des fois, il y a des choses qui arrivent, des inconvénients. Mais ce que nous avons comme assurance, c'est que notre fin, elle sera heureuse. Il peut nous arriver, quoi que ce soit, nous savons que la fin de notre vie, elle sera heureuse. La quatrième promesse, au verset 9, on le trouve, la première partie. Il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Au verset 11, il nous est dit, les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Jésus, il a repris cette promesse-là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, dans le Béatitude. Et il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ici, le Seigneur, il nous dit que les humbles et les doux ne s'héritent pas contre ceux qui font le mal. Ils espèrent en l'Éternel. Et la promesse de Dieu, qu'il dit, je leur donnerai le pays. Dans l'Ancien Testament, Dieu il avait promis ça à Israël, hein, avec le pays qu'il leur a donné, Canaan. À nous, il nous fait la même promesse, mais il ne nous fait pas la promesse de la terre, mais il nous fait la promesse du ciel. Et cette promesse est toujours valable. Cette promesse est pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Qu'ils veulent lui dire « Oui, Seigneur, je vais me confier en toi, je vais espérer en toi, viens au secours de moi-même, j'ai besoin de toi. » Nous avons besoin de vivre une vie sainte et juste dans ce monde, pour que les autres puissent voir de la manière dont il faut se comporter pour que Dieu y soit agréable. Le monde chrétien est persécuté. On ne sait plus comment vivre aujourd'hui. Mais Dieu nous montre dans sa parole toutes ces choses-là. Hein? Au verset 11, il nous est dit, « Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix. » Est-ce qu'on vit la paix aujourd'hui dans cette terre? Non. Il y a des guerres continuelles. Mais si on a le Seigneur dans notre cœur, on a la paix. Parce que c'est le prince de la paix. Que Dieu nous donne la grâce de vivre à sa gloire dans ce monde mauvais. Et ça vient toujours de Dieu. Hein? Ce n'est pas que dit « je veux vivre », non. Que Dieu nous donne la grâce, car tout vient de lui. Que Jésus-Christ soit notre joie et notre espérance. Et que son esprit en nous, il puisse nous diriger en nous accordant cette force dont nous avons besoin. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à vivre de façon juste dans ce monde mauvais. Amen.